Bienvenue à cette seconde partie du discours. J'aurais aimé avoir plus de temps pour pouvoir continuer à développer la première partie. Il y a encore pas mal de choses à explorer dans ce domaine, dans la relation avec la mort et la manière dont on a médité. Mais je voudrais aller aussi ailleurs. C'est évidemment très très vaste et j'aimerais bien aller ailleurs dans la réflexion et peut-être plus dans une relation de la pratique de la méditation. Pas cette méditation guidée telle qu'on l'a faite, et il y en a d'autres, des méditations guidées autour de la mort, comme je le disais dans un autre discours de ce cycle, par exemple, des visualisations où on va voir, ça existe dans le bouddhisme tibétain, où on voit notre corps peu à peu qui est mangé par des petites bêtes, qui se décompose et tout, et qui sont décrits avec une grande, grande précision, comment toutes les couches de la peau, de la chair, de la graisse, et puis peu à peu les nerfs, les os, enfin tout, le sang, enfin, tout est en fait décrit en grande précision, et c'est une visualisation où on voit son propre corps sous terre en train de se faire manger et tout. Tout ça toujours avec une notion de parvenir à un certain détachement. Donc il y a encore pas mal à explorer de ce côté-là, mais je voudrais aller un peu ailleurs, prendre une ligne que j'avais lue de Rumi, qui est, donc Rumi nous dit que chaque jour, chaque instant, on meurt et on revient à l'existence. C'est une vision qui existe dans le soufisme, mais pas que dans le soufisme, aussi dans le bouddhisme. C'est aussi une manière de voir l'expérience humaine, qui est en fait qu'il n'y a pas vraiment une continuité, mais que... À chaque instant, on meurt et on revient à l'existence. Alors c'est un peu... m'a fallu pas mal de temps en fait pour réussir à imaginer ce que ça pouvait bien vouloir dire, parce que ça semble assez loin de mon expérience et de ce que je comprends de moi-même. J'ai une sensation d'une identité quand même dans les profondeurs de moi-même qui a une certaine continuité. Voilà, c'est un petit peu ce que je voudrais explorer, c'est cette manière de voir, cette manière de se penser veut nous dire et qu'est-ce qu'elle peut nous amener. Dans la méditation qu'on a faite, on s'est imaginé donc au moment de notre mort et on a vu notre vie et on a vu des éléments de notre vie et on a appris à lâcher prise sur ces éléments. Tout ça avec une idée préconçue d'un jeu, d'un soi qui est continu, qui a une existence depuis la naissance jusqu'à maintenant, qui a une certaine permanence en fait, c'est-à-dire qui est tout le temps là, et voilà, qui a été tout le temps là de maintenant jusqu'au moment de notre mort. Et peut-être après, suivant nos métaphysiques, les manières dont on envisage l'après la mort, éventuellement une continuité de avant la naissance jusqu'après la mort. Et tout ça en fait... Quelque part, on pourrait dire que c'est une certaine métaphysique. Métaphysique, ça veut dire que c'est une idée qui n'est pas directement vérifiable à travers les cinq sens. Donc ce n'est pas vraiment notre expérience directe de ce qui est perçu dans le moment. C'est une idée qu'on surimpose sur l'expérience phénoménologique, les phénomènes, l'expérience des phénomènes en fait. Ça va être un peu plus compliqué peut-être comme discours. Pour ceux qui connaissent ce genre de réflexion, pour ceux qui connaissent aussi les chemins de ma réflexion, ça va faire des liens. Et puis pour d'autres, essayez juste d'aller voir, et d'ailleurs pour tout le monde, de se poser des nouvelles questions en fait. Le plus gros travail pour moi de la recherche spirituelle, c'est de trouver les bonnes questions. C'est ça, trouver les bonnes questions pour que notre regard aille plus en profondeur, de s'interroger, s'interroger, s'interroger. Donc nous, on hérite d'une tradition... notamment qui a été très influencé par les pensées de Descartes, je pense donc je suis, hein, qui a fait son cogito et qui est ressorti avec la conclusion. Il a synthétisé je pense donc je suis, mais au départ sa conclusion c'était que je doute et je vois que je doute et je vois les pensées de doute et puisque je vois les pensées de doute c'est que j'existe, puisqu'il y a les pensées de doute. Donc en fait il y avait une certaine identification à la conscience. Je suis conscient que je doute et donc j'existe pendant que je doute. Extrêmement, extrêmement intéressant, mais c'est questionnable. C'est-à-dire qu'on pourrait remettre en question, en fait, et d'ailleurs ça a été fait par beaucoup de philosophes, hein, qui challengeaient un petit peu cette manière de voir. Et déjà, je pense que, avec tout le respect que j'ai pour Descartes, parce que j'adore, là, je trouve qu'il aurait dû aller un peu plus loin, parce qu'il s'est arrêté à une conclusion qui confirme une idée préconçue. Et du coup, intuitive, c'est ce qu'on ressent intuitivement, c'est qu'on existe. Et en fait, il a fait tout un cogito, il a fait toute une réflexion pour arriver à confirmer quelque chose qu'il pensait déjà au début, c'est-à-dire j'existe. Qui est par défaut ce qu'on pense. Et quand on a une réflexion qui confirme ce qu'on pensait, je trouve qu'il faut rajouter une sonnette d'alarme parce que c'est toujours dangereux. Ça veut dire, on a tendance à chercher à confirmer ce qu'on pense. Et donc quand on a une réflexion ou des manières de penser qui vont confirmer quelque chose qu'on pense déjà, il faut se dire attention, attention, est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir par ma préférence de penser, par mes habitudes de penser et ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent, et c'est important dans la spiritualité, parce que très souvent, on emprunte des spiritualités qui confirment ce qu'on pense déjà, et même qui vont venir soutenir un mode de vie. Et je vois souvent ça, des gens, par exemple, l'illusion, et alors l'illusion parce que ce monde est illusoire, et la vie est illusoire, et à un moment, on se réveille au moment de la réalisation, et on voit que tout ça n'a jamais vraiment existé. Et donc, voilà, ça fait partie d'une philosophie qui vient du bouddhisme, de l'hindouisme et peut-être encore d'ailleurs, mais souvent qui peut être utilisée pour continuer à ne pas prendre soin, par exemple, de son corps, parce que c'est très illusoire. Je le dis parce que je l'ai fait pendant des années, alors je sais de quoi je parle. De se dire, de toute façon, je peux continuer à fumer ou ceci, cela, parce que c'était ma réflexion, hein, j'avais vraiment ça dans mes pensées. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, même si ça va engendrer de la souffrance, à un moment ou à un autre, en fait, je vais me réveiller à une certaine réalité dans laquelle ça n'a jamais vraiment existé. Donc, c'est pas très, très grave non plus si je continue. Et je vois en fait qu'il y a ce genre de confirmation, de pensée et de philosophie qui vont faire un backup d'un style de vie et qui vont nous permettre de ne pas changer et de continuer à faire comme on fait. Aussi par rapport à peut-être la manière dont on utilise la planète, des styles de vie en fait. Et là, il faut se méfier. Quand notre philosophie vient renforcer ou confirmer notre style de vie, il faut toujours se dire « je vais re-questionner, je vais re-questionner ». Parce que Descartes, il aurait pu aussi dire « une pensée est perçue » plutôt que dire « je pense » déjà. Une pensée est perçue, parce que c'était ça en fait. Ce que je voudrais amener, c'est la phénoménologie. N'ayez pas peur du mot, on va l'expliquer, c'est assez facile, mais c'est très important en fait de comprendre cet aspect de l'expérience. Au niveau de l'expérience, si on veut vraiment dire sans inférer d'idées, avec le moins d'idées préconçues possible, on pourrait dire « une pensée est perçue » et pas « je pense », hein, une pensée est perçue, et quand cette pensée est perçue, il y a une sensation « je », il y a une sensation d'exister. Au moment où une pensée est perçue, ou au moment où n'importe quel phénomène, la pensée étant un phénomène, phénomène qui vient de phénoména, je pense, je ne sais plus si c'est du grec ou du latin, mais qui veut dire « qui apparaît », un phénomène, une pensée apparaît, une image apparaît, un son apparaît, quoi que ce soit qui apparaît dans notre expérience. Donc, quelque chose apparaît. Au moment où quelque chose apparaît, il y a une sensation « je ». « Je perçois cette chose ». Okay, ça, c'est vraiment une description quelque part plus fidèle de ce qui se passe vraiment. Au moment où quelque chose apparaît, il y a une sensation « je ». Et si on regarde comme ça, alors on voit que la sensation « je », la sensation d'exister, elle n'est pas permanente. Il y a des moments où on est conscient et on sait qu'on est conscient, on existe et on sait qu'on existe, on a la sensation d'exister. Il y a des moments où on est bien là, mais on ne sait pas qu'on est là. Ça devient un peu compliqué, hein, mais on est bien là, mais on ne sait pas qu'on est là. On est par exemple absorbé dans quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on aime faire, et à ce moment-là, on n'a pas conscience de nous-mêmes en train de le faire. Il y a des moments où on est complètement distrait, et il y a des moments où on est complètement absent, avec à l'extrême, le sommeil profond sans rêve. À l'état de sommeil profond sans rêve, à ce moment-là, il n'y a plus une certaine conscience. Nous, on va dire qu'il y a un jeu qui dort, et puis qu'il y a un jeu qui se réveille derrière, et qu'il a été continu tout le temps. Okay ? Mais c'est de la métaphysique, c'est une théorie, c'est une thèse. Elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. C'est une thèse. Personne ne peut, pour sûr, dire qu'il y a un jeu continu qui est là aussi pendant qu'il y a le sommeil profond. Il y en a d'autres, des thèses sur le sommeil profond. Peut-être qu'il y a quelque chose qui reste pendant que tout le reste dort. Pendant que toute une partie de l'identité dort, il y a quelque chose qui reste là peut-être. Mais est-ce que c'est quelque chose d'individuel, une conscience individuelle? Est-ce que c'est une conscience plus universelle qui fait déjà partie de nous depuis le début? Vous voyez, tout ça, c'est des manières d'expliquer l'expérience. Mais la phénoménologie, elle s'occupe de décrire l'expérience telle qu'elle est vécue par le sujet. C'est tout. Donc elle évite de s'engager dans les métaphysiques, dans des compréhensions, donner une explication, on va dire une ontologie, c'est-à-dire de fixer dans une réalité plus universelle quelque chose qui est en fait une métaphysique, une manière de voir. Donc Rumi nous dit à chaque instant on meurt et on renaît. Ça c'est aussi une description de l'expérience, c'est très ontologique en fait. On est là, on n'est pas là, on est là, on n'est pas là. Ça, c'est une description de notre réalité, c'est ce qu'on vit. Et en méditation, on essaie d'être un peu plus là. Hein, mais il y a quand même bien des moments où on n'est pas trop là. Et puis des moments où on est re-plus là. Et puis ça bouge. Et puis il y a des moments où on n'est pas là du tout dans notre quotidien. Et il se pourrait, c'est Albert Moukébert qui parlait de ça, le neuroscientifique. On n'a pas la mémoire d'une continuité. On imagine une continuité. Mais en fait, notre vie est pleine de trous. Nos journées sont pleines de trous, nos heures sont pleines de trous et nos minutes sont pleines de trous. Et la mémoire, sans la mémoire, évidemment, il n'y aurait pas une continuité. Continuité veut dire temps, temps, mémoire, pas de temps, pas de mémoire. Pas de mémoire, pas de temps, plutôt, dans ce sens-là. Tout ça, en fait, c'est l'esprit qui reconstruit une histoire dans laquelle il semblerait qu'il n'y ait pas de trous. C'est quand même déjà assez fort de réussir à éliminer complètement le sommeil profond, hein, parce que c'est quand même un gros trou. On a quand même pas mal d'heures dans une vie de sommeil profond. Et donc, c'est l'esprit qui reconstruit une histoire complète, comme si elle était solide et continue. Mais imaginez, c'est ça qu'on a peur qu'il meure. Si on a peur de la mort, c'est l'investissement dans la croyance que cette histoire est complète, continue. Sinon, en fait, on fait l'expérience de la mort tout le temps. Phénoménologiquement, la mort, c'est banal, c'est tout le temps. On a l'expérience phénoménologique de la mort dans notre expérience quotidienne, on connaît très bien. Quand on dit le jeu qui existe dans le temps, c'est lui qu'on a imaginé mourir. Et là, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, et on a un investissement énorme. Et on a besoin de cette conception. C'est ça qui nous permet de fonctionner. On ne peut pas s'imaginer en pointillé comme ça ne fonctionnerait pas, en fait. On a besoin de cette conception. Mais c'est une conception qui est utile, mais qui ne décrit pas forcément la réalité. D'ailleurs, comme aucune conception ne décrit la réalité. Aucune. C'est là que le dogme commence. C'est quand on dit « cette conception décrit la réalité ». Il y a plein de conceptions qui sont hyper utiles. Il n'y en a aucune qui, au final, décrit la réalité. Et les scientifiques qui sont bien engagés dans leur travail sont tous d'accord là-dessus. Personne n'essaye de décrire la réalité, mais de trouver comment elle fonctionne de manière à pouvoir naviguer la réalité et tirer des règles générales qui sont reproductibles et qui nous permettent d'avancer en sécurité et de trouver nos chemins. Mais ça n'explique rien du tout. Ça n'explique pas pourquoi les choses sont comme ça. Et nous, on n'explique pas pourquoi. Pourquoi les choses sont comme elles sont. Mais on a plusieurs manières, on peut utiliser du coup plusieurs manières d'interpréter l'expérience. Par exemple, en méditation, si à un moment l'esprit se pose et qu'on arrive à un espace où on sent qu'il y a de la conscience, naturellement, intuitivement, on va avoir la sensation « je suis conscient ». C'est intuitif, c'est naturel, c'est par défaut, c'est ce qui va venir. Mais avec la pratique et grâce à l'étude, on comprend qu'il y a d'autres manières d'interpréter cette expérience et qu'on pourrait dire, par exemple, il y a de la conscience ou la conscience est là et c'est déjà moins un je qui est conscient. Il y a déjà moins une entité qui possède la conscience ou qui génère la conscience. Mais là, il y a une manière de voir qui est différente. Il y a je suis conscient, ça nous fait sentir un je qui est conscient et la conscience est présente, nous fait sentir une conscience qui pourrait être beaucoup plus universelle, qui n'est pas ma conscience. Mais la présence de la conscience. C'est deux manières de voir. Okay ? Et franchement, elles sont bien toutes les deux. Il n'y en a pas une à jeter. Mais c'est la capacité de passer d'une à l'autre qui est très intéressante. Alors on pourrait avoir la sensation que cette conscience avec laquelle on est en contact pour le moment qui est là, il y a la sensation de conscience, on peut se dire que là, on est témoin de quelque chose qui est tout le temps là, mais que souvent on ne voit pas. C'est une manière de voir, et franchement, c'est magnifique. Ça nous donne une sensation de sécurité, de quelque chose d'éternel, de hors du temps. Et on peut le voir, comme Rumi nous le suggère là, de dire, ben, pour le moment, il y a une expérience, par exemple la sensation de la respiration et l'observateur de la respiration. Il y a une expérience et dans ce moment, on existe. Et puis après ça, l'expérience disparaît, la sensation d'exister disparaît aussi. Il n'y a rien de continu. Et du coup, on peut voir ce moment de conscience comme juste un moment de conscience, comme si la conscience faisait ça, et puis après ça, elle s'en va. Et puis elle revient, et puis elle s'en va. Plutôt que de la voir comme quelque chose de continu avec lequel de temps en temps on est en contact. Vous voyez la différence ? C'est un peu les mêmes questions que la lumière. Est-ce que la lumière est une onde ou est-ce que la lumière, c'est des photons, de la matière ? Vous voyez, c'est un peu les... Et au final, il n'y a pas un qui est vrai et l'autre qui est faux. Ça dépend comment on regarde. Mais par contre, ça crée des ressentis très différents en méditation. On va vivre notre méditation très différemment. Petite histoire qui peut aider à comprendre tout ça. Et je me disais, alors on va voir si ça fonctionne. Mais je me disais, c'est un peu comme si, mettons, on regarde un film. On est complètement pris dans le film. On vit tout un tas d'émotions en fonction de ce qui se passe dans le film. Okay ? Ça, c'est, on va dire, la vie par défaut. Admettons. Okay. Et puis, à un moment, on commence à se rendre compte qu'en fait, notre esprit interagit avec le film. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il y a une situation, par exemple, de violence qui se passe dans le film, et du coup, il y a quelqu'un qui a une attitude vraiment haïssable, et du coup, nous, on commence à ressentir vraiment, on lui en veut, on a de la haine et tout ça. Et en fait, là, dans le film, on peut sentir toute une tension et tout. Et puis, à un moment, peut-être on amène une autre manière de voir et on essaie de comprendre que cette personne agit peut-être d'une façon haïssable parce qu'elle a eu un passé difficile, parce qu'elle reproduit quelque chose qu'elle-même a vécu et qu'elle-même est en souffrance, par exemple. C'est une autre perspective dans laquelle il va y avoir plus de capacité d'une ouverture à la personne qui, sinon, est jugée et condamnée. Et imaginons, alors, donc là, on regarde le film, il y a cette scène. On est là, la première réponse, c'est on voudrait qu'il meure, on voudrait rien. Et puis après ça, hop, il y a cette autre réponse de où on comprend qu'en fait, cette violence vient d'une souffrance. Du coup, on regarde la personne différemment et du coup, le film change. Imaginez, vous êtes en train de regarder le film et puis subitement, vous changez de regard sur ce qui est en train de se passer dans la scène et du coup, la scène change. Peut-être le film ralentit un petit peu, peut-être il y a un petit peu plus de couleur qui vient, peut-être quelque chose se calme. Peut-être l'histoire prend une tournure légèrement différente. Et comme ça, on se rend compte en fait que quand on regarde le film, on a un impact sur ce qui est vu. Et à ce moment-là, on se dit, ouais, c'est incroyable. Alors là, on se dit, je vais en essayer d'autres. On va essayer, alors on va regarder, on va apprendre, on va voir ce qui se passe. Quand on regarde d'une façon égocentriste, où on a peur de perdre, où on a peur de perdre des choses, on va voir le film peut-être qui va devenir plus tendu, plus serré et plus sombre. Et puis hop, on va remplacer ça par une autre manière de voir, dans laquelle il y a de la générosité, dans laquelle il y a de l'altruisme. Et hop, le film en fait change. À ce moment-là, on commence à comprendre qu'à la façon dont on regarde quelque chose, cette chose se transforme. C'est passionnant parce que c'est ce qu'on fait en méditation. Et c'est ce qu'on apprend à faire en méditation pour pouvoir le transposer après dans le quotidien. On apprend à amener des manières de voir qui vont nous aider à créer moins de souffrance et à vivre plus d'amour. On peut le dire comme ça, il y a plein de manières de... Ok, des manières de... C'est de voir avec sagesse. Et donc on peut en faire l'expérience en méditation. Si on regarde notre expérience d'une certaine manière, si on l'interprète d'une certaine manière, ou si on l'interprète d'une autre manière, en fait, le vécu, le ressenti, l'expérience elle-même change. Mais on est conscient, en même temps, c'est ça toute la beauté, je trouve, de la philosophie, de la méditation, quand elle est comprise comme ça, on est conscient qu'on n'explique rien. Ça n'explique pas. En fait, on ne voit pas le projectionniste. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quand on regarde comme ça, il se passe ça? Pourquoi quand on regarde comme ça, il se passe ça? Quel est ce phénomène? Quel est ce fonctionnement? Comment ça se fait que c'est comme ça? Ça n'explique rien. On apprend à naviguer un monde qu'on n'explique toujours pas. Et donc, plus on avance, plus en fait, et ça c'est un de mes grands dadas, donc vous me l'entendez souvent, j'y reviens souvent, mais plus on avance, plus on se rend compte du mystère. De comment c'est mystérieux. À la fois, on acquiert une connaissance dans la manière de naviguer, on acquiert une connaissance de manière de voir, des manières de penser, des manières d'aborder les situations qui fonctionnent bien. On devient de plus en... On crée de moins en moins de tensions en nous-mêmes et autour de nous. Donc on est de plus en plus fonctionnel, on se crée et on crée autour de nous de plus en plus de beauté. Et à la fois, on se rend compte que plus on avance, moins on comprend. Tout comme je tombais sur un texte justement, voilà, c'est juste une phrase. C'est un livre sur la matière noire, les énergies noires et trous noirs. En ce début de 21e siècle, les scientifiques réalisent qu'ils mesurent avec une précision sans cesse améliorée le degré de leur propre ignorance. C'est ça, le grandir en sagesse. C'est ça, grandir en sagesse. C'est pas connaître de plus en plus. C'est se rendre compte de l'immensité de notre ignorance, en fait. Et si j'en viens là, c'est parce que la peur de la mort, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Parce qu'on croit qu'on sait qui on est. C'est de là, c'est de cette base-là, en fait. Cette espèce de certitude solidifiée de quelque chose qui en fait, où on n'a aucune certitude. Mais parce qu'on est ancré dans cette certitude, on a peur que ça meure, cette idée. Donc quand on pratique la méditation, en fait, on change de sens d'identité. Ou peut-être, pour mieux dire, c'est pas tellement qu'on change de sens d'identité, mais on commence à avoir une pluralité de sens d'identité. Une pluralité, pour essayer de rester le plus simple possible, une pluralité dans le sens où on peut avoir notre identité qui est la plus construite, l'identité conventionnelle la plus construite qui s'est développée dans le temps, depuis notre naissance, dans un certain contexte, dans un certain monde, avec un certain fonctionnement, une certaine société, un certain type d'éducation, tout un tas d'expériences qui peu à peu nous a donné tout un tas d'idées à propos de qui on est. Hein, ça, c'est notre identité la plus fonctionnelle dont on a besoin pour fonctionner dans ce monde, fonctionnelle et dysfonctionnelle, on sait, hein, il y a les deux. Jusqu'à ce sens d'identité, et il y a tout un tas de gradations dont on fait l'expérience quand l'esprit est extrêmement calme, tranquille, posé. Et à ce moment-là, il y a toute cette identité construite qui n'apparaît plus, qui n'est plus là dans ce moment-là, simplement. Et il y a une sensation de quelque chose de nous-mêmes qui est moins construit et qui est plus universel et plus authentique, qui est moins spécifique. Donc notre sensation d'identité change et on peut naviguer dans cette sensation d'identité. C'est-à-dire qu'on peut vivre au moment où c'est nécessaire dans cette identité très construite, avec tous ces rôles qu'on s'est dit qu'on perdait au moment de la mort, et toutes ces capacités, toutes ces connaissances, et tout ça. Donc, à cet endroit-là, où on peut être à l'endroit où tout ça existe et apparaît, et puis on peut se laisser aussi, on peut laisser tout ça disparaître et faire l'expérience de nous-mêmes d'une façon complètement indépendante de toutes ces constructions. Ou de plus en plus indépendante de toutes ces constructions. Et en fait, ça, ce mouvement-là, se fait en méditation. Et pour qu'il puisse se faire, il faut accepter la disparition phénoménologiquement dans notre expérience. Il faut accepter la mort de l'identité construite dans le moment pour pouvoir être avec nous-mêmes au-delà de toute construction. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il faut accepter en méditation de n'être plus personne, de ne pas être en train de s'améliorer, de ne pas chercher à être meilleur, de ne pas chercher le succès, de ne pas ressasser nos échecs, de ne pas vouloir changer quelque chose, de ne pas vouloir atteindre quelque chose. En fait, de ne plus rien chercher du tout. On peut dire juste être. Et donc, accepter en fait de laisser mourir dans le moment. On n'est plus ontologiquement sur toute une vie accepter la mort. Là, on parle phénoménologiquement. Donc, accepter que dans le moment, cette partie de nous-mêmes meurt. C'est l'expérience. C'est l'expérience d'une mort dans le moment.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la mort de l'ego ?
Alors, on peut dire que c'est la mort de l'ego, mais c'est aussi la mort. C'est pas que l'ego. Et puis l'ego, c'est un mot très très compliqué parce qu'il peut vouloir dire quelque chose, mais c'est aussi la mort de l'identité. L'identité construite qui n'est pas forcément l'ego, mais de toutes ces couches en fait. On peut le laisser comme ça, je pense. Et l'important, c'est en méditation, c'est de voir à quel endroit on se trouve et d'être conscient en fait de certains moments où il y a très très peu de couches identitaires et où tout un tas d'idées à propos de nous-mêmes, du passé, du futur, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on voudrait atteindre, de nos échecs et de nos succès, tout ça, toutes ces idées n'apparaissent plus. En fait. Et de se rendre compte de ça. On peut se le dire avec des mots, on peut se dire, tiens, là, je fais l'expérience de moi-même différemment, au-delà de tout ce qui s'est construit dans le temps. Ça, c'est mes mots, chacun met ses mots. Et en méditation, pour pouvoir cheminer vers le cœur de nous-mêmes, on doit pouvoir lâcher ce pour quoi on a mis tant d'énergie et ce à quoi on s'est tant identifié. Et on dirait que dans la vie d'un humain, en fait, c'est ça. C'est parce que je vois mon fils, il est en train de construire cette couche d'identité et d'essayer de la faire la plus solide possible. Hein? Et c'est ce qu'il doit faire. On a besoin de construire une bonne couche d'identité qui soit suffisamment résiliente, dans laquelle il y a de la confiance en soi, dans laquelle il y a quelque chose de solide, en fait. Mais viendra un moment, et c'est de ça qu'on parle, où il faudra se rendre compte que c'est extrêmement utile, mais c'est une construction. Ça, c'est une approche de méditation. C'est un désintérêt complet pour ce qui s'est construit dans le temps. En fait, à toutes les couches, la méditation peut... On peut s'arrêter à n'importe quelle couche et faire du travail avec la méditation. Mais là, je parle de la méditation dans le sens où on va aller à une connaissance de soi au-delà de tout ce qui s'est construit. Et là, et on en a tous fait l'expérience, mais pas forcément tous consciemment faire l'expérience. Mais le fait que... C'était... Qu'est-ce qu'il disait ça ? Je ne me rappelle plus. Un maître tibétain qui disait « Moins de moi, moins de souffrance. Plus de moi, plus de souffrance. » Voilà. C'est que quand un moment, dans le moment, toujours c'est très phénoménologique, tout ce discours est phénoménologique dans notre expérience du moment, il y a moins cette sensation d'une identité avec très très spécifique, avec tout notre passé, tout notre vécu, toutes nos capacités, tous nos problèmes. Quand ça est moins présent, alors il y a moins de souffrance. Et si c'est encore un peu moins présent, alors il y a encore moins de souffrance. Et là, c'est Lao Tzu qui nous dit « La santé est le plus grand bien, le contentement est le plus grand trésor. La confiance est la meilleure amie et le non-être est la plus grande joie. » Parce que l'expérience de cette cessation de quoi ? Cessation de cette identité qui existe beaucoup plus dans le temps que l'autre, cette cessation de l'identité, à certains moments, on peut vivre une peur. Dans la méditation, ça arrive d'avoir des peurs. Parce que ça peut être assez familier, en fait, de se retrouver avec cette espèce de tranquillité dans laquelle la manière de se vivre habituellement n'apparaît pas. Parce que sinon, vous le remarquez, dès le matin, dès le moment où on se réveille, c'est comme si on retéléchargeait toute l'histoire. Vous avez déjà remarqué ça ? C'est une sensation. Hein. Parfois, il faut quelques minutes, parfois. Hein. Mais on voit, en fait, que c'était super tranquille, et puis c'est... Et parfois, moi, je vois mon esprit qui cherche. Alors, c'est quoi la journée aujourd'hui ? Ah oui, il y a ça. Et parfois, je vois même mon esprit qui cherche. C'est quoi les problèmes que j'ai pour le moment et que je dois solutionner ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je rappelle les problèmes qu'il faut solutionner pour reprendre là où j'en étais. Et donc, en fait, il y a tout qui se retélécharge comme ça, le matin quand on s'éveille. Et donc, on est avec ça depuis le moment, le premier moment de conscience après la conscience du sommeil. Hop, on revient, toute notre identité est là, toute l'histoire est là, comme si elle n'était même pas partie. Et on continue comme si tout ça était normal. D'ailleurs, ça, parfois, c'est étonnant. Donc, c'est normal que, dans des moments de méditation, quand on se retrouve avec ça qui n'est plus là, qu'on est plus proche de juste être, eh ben, il y a un coup de flip, parfois. Et parfois, ça fait un peu peur. Ou si ce n'est pas une peur, c'est une espèce de pas très à l'aise. Ou à ce moment-là, on peut avoir des trucs genre le corps, il va faire un choc, ou on va avoir des gros endormissements et on va sortir de la conscience. Ou alors, il va y avoir quelque chose qui nous pousse vraiment à stopper de méditer. Hein, ça m'est arrivé. Et si ça vous arrive, bah c'est ça. On apprivoise nos grands espaces avec le temps. Il faut avoir suffisamment de patience. Ça s'apprivoise avec le temps, ces grands espaces de nous-mêmes. D'ailleurs, si ça vous arrive à un moment et qu'il y a cette peur qui est comme une peur existentielle finalement, ce jeu dans lequel on a investi la totalité, parce que depuis qu'on est gamin, quand même, on nous dit qu'il faut que ce jeu réussisse pour que tout aille bien. Et quand on découvre un espace dans lequel, en fait, que les choses aillent bien ou les choses n'aillent pas bien, en fait, cet espace reste inaffecté. à ce moment-là, ça remet en question toute cette identité dans laquelle on s'est donné quand même. Et on se donne toujours, et on a intérêt à se donner, et c'est important de se donner. Hein ? Il ne faudrait pas dire qu'il faut arrêter ça. Je le dis toujours, parce qu'il y a les deux mondes, il faut prendre soin des deux. Moi, c'est quelque chose, j'aimerais bien que tout le monde le comprenne, parce que je pense que c'est vraiment important, ça. Il ne faut pas choisir un pour l'autre. Il ne faut pas choisir la vacuité et le non-soi, et dire que ça, c'est la réalité, et que du coup, tout le reste n'est qu'une illusion. Non. Vrai, c'est, même si c'est vrai que du côté de... Quand on est dans les endroits peu construits de nous-mêmes, on a l'impression que tout le reste, en fait, n'a pas vraiment grande importance, et que ça n'a pas vraiment de fondement, et que c'est presque illusoire. Oui, ok, mais ça a tout autant d'importance. La libération, c'est la capacité de mouver, de bouger d'un à l'autre et d'être bien dans tous et de trouver sa place à chaque endroit. Alors, vous rappelez, dans Trade d'il y a un mois ou celle d'il y a deux mois, je ne sais plus, je lisais des conseils de Bouddha à un de ses disciples. Qu'est-ce que c'est contempler la permanence ? Et alors, il disait, contempler la permanence pour un moine, c'est se retirer sous d'un arbre ou dans un local vide, s'installer confortablement, et puis après, observer la permanence, observer le début, la durée et une fin, et en observant la permanence via le détachement. Hein, parce que si on observe tout le temps que les choses ne durent pas, à un moment, on va avoir moins tendance à s'attacher, parce que quand on s'attache à quelque chose qui ne dure pas, on souffre. Donc on va moins avoir tendance à attacher notre sensation d'existence ou de bonheur à quelque chose qui ne dure pas. Il va observer un certain détachement. Donc en observant la permanence, en fait, c'est comme si on se mettait un petit peu à distance de ce qui est observé. Et observant le détachement, donc ça c'est ce qui va se produire. Qu'est-ce qu'il va observer ? Quand on se met à distance et qu'on investit moins notre attention dans les choses, tout ralentit. Et alors là, il y a des choses qui se produisaient au début de la méditation, et puis dans ce moment de la méditation, ne se produisent plus. La cessation. Il va observer la cessation. Il va voir que les choses qui sont tout le temps là, à un moment, cessent. Et observant la cessation, il va observer le désintérêt. C'est ça qu'on disait. Observer le désintérêt, c'est à ce moment-là, dans ce moment-là, tout ce qui d'habitude nous passionne ou nous attire ne nous intéresse plus. Parce que l'expérience était très agréable, en fait. Et parce qu'il y a quelque chose de complet dans le fait d'être simplement là, présent, sans objectif, sans identité construite, sans pensée, sans besoin, sans désir. Il y a quelque chose de pleinement satisfaisant, en fait. Et du coup, parce que des pensées peuvent être là, ce n'est pas du tout un problème, quand des pensées viennent de choses qui d'habitude auraient attrapé notre attention et nous auraient amené vers les distractions, à ce moment-là, il y a un désintérêt total. Il n'y a pas d'intérêt pour ces choses qui, d'habitude, nous auraient complètement absorbés. Et ça, c'est des choses qu'on peut, nous, observer en méditation. C'est des choses qu'il faut réaliser en méditation. C'est ce curseur, c'est comment on peut aller jusqu'au centre de notre être, et où est le centre de notre être, et voir qu'en fait... Ça fait penser à Jules Verne avec le voyage au centre de la Terre. C'est un voyage, en fait. Cette échelle, elle est immense. C'est quand qu'on est au centre de nous-mêmes ? À quel moment ? Une chose importante à comprendre, parfois on a l'idée de la méditation. La méditation, c'est se poser, parce que quand on se pose, l'esprit est renourri, de nouveau disponible. Il y a plus juste un ressourcement. Mais comme je le dis tout le temps, pour moi, c'est... En plus du ressourcement, c'est une exploration, c'est une recherche de connaissances. Et là, quand on a une recherche de connaissances, on porte un regard curieux à cette expérience, ce phénomène de l'identité qui bouge et qui est du plus construit au plus déconstruit. Et on est curieux. Je veux dire, remarquez-le, ces moments dans lesquels vous êtes en méditation, et en fait, vous êtes bien. Même si ça dure une seconde, ou trois secondes, ou cinq secondes. C'est extrêmement significatif. Mais ce n'est pas significatif parce que ces 5 secondes sont extrêmement ressourçantes et qu'on repart dans notre journée complètement ressourcée. C'est significatif parce que ça nous dit quelque chose à propos de notre identité. Et c'est cette compréhension-là qu'il va falloir ramener. C'est ça la réalisation. C'est réussir à changer la manière dont on se comprend ou la manière dont on comprend la vie en fonction d'une expérience qu'on vient de vivre. C'est-à-dire qu'on vit une expérience et ça fait « Ah ouais, mais alors ça veut dire que ?» Ça, c'est la réalisation. C'est la compréhension qui va venir du vécu. Ça, c'est la réalisation. C'est la compréhension qui va transformer. Sinon, on peut vivre des expériences incroyables et puis revenir au quotidien comme si de rien n'était et les oublier après 6 mois. Ou elles deviennent des expériences mémorables, mais qui ne se sont pas du tout intégrées dans nos nouvelles manières de voir. Et on l'a vu, ces manières de voir après ça, on va les utiliser dans notre quotidien. Quand notre compréhension change, notre quotidien change. Rappelez-vous du film. Quand on regarde le film d'une certaine manière, il va se produire autrement et on change de manière et le film change. Et là aussi, dans la méditation, on vient vivre des moments, des expériences qui viennent avoir un impact énorme sur la manière dont on imagine qui on est, dont on comprend ce qu'est la vie. Et c'est ça qui nous transforme. Donc remarquez qu'à un moment, des choses qui d'habitude tout le temps nous mettent en mouvement, c'est-à-dire on est en méditation, et notre esprit, pourquoi est-ce que notre esprit s'agite autant? Hein, ça c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que notre esprit s'agite autant? Notre esprit, alors à vous de voir, mais notre esprit s'agite parce qu'il veut ceci, il ne veut pas cela, il veut ceci, il ne veut pas cela. Quand on en vient à des moments, même si c'est quelques secondes, où il y a la cessation de ce mouvement, il va y avoir un désintérêt justement pour ceci et cela. L'esprit arrête de désirer ceci et cela. Et du coup, il n'y a plus ce mouvement, il n'y a plus cette sortie de nous-mêmes vers. Ça, c'est vraiment, c'est une description, finalement, assez, ça peut sembler philosophique, mais c'est très technique. C'est très technique de ce qui se passe dans notre esprit et c'est ce qui explique la distraction. La distraction vient de l'intérêt porté. C'est Nisargadatta Maharaj, j'en parlais tout à l'heure, qui disait si la réalisation était notre seul business, notre seul intérêt, ça ne prendrait pas aussi longtemps. Mais on a plein d'intérêts. On veut la réalisation, mais on veut aussi un bon repas comme ça, mais on veut aussi être un peu reconnu comme ceci, mais on veut aussi cela. Et en fait, on veut plein de choses. Et du coup, comme on veut plein de choses, quand on est en méditation, dès qu'il y a des choses qu'on veut, ou des choses qu'on ne veut pas, parce que c'est exactement la même chose, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, c'est le même mouvement, dès qu'il y a des choses qu'on veut ou des choses qu'on ne veut pas qui se présentent, il y a un mouvement à l'intérieur de nous, une réactivité. Tout ça, ce dont je parle là, pour ces 10 dernières minutes, qui est quelque part, ça parle vraiment du fonctionnement de l'esprit en méditation. C'est technique, donc ce discours, il est enregistré. Réécoutez-le. Essayez de comprendre, essayez de voir si c'est vrai. Essayez que ces mots, à un moment, ça soit les vôtres, dans votre méditation, de voir, ah oui, effectivement, je vois qu'il y a des moments où je me vis différemment. Je vois ce que ça veut dire un esprit qui se pose. Je vois ce que ça veut dire la conscience. Est-ce qu'on est bien au clair de ce que c'est la sensation d'être conscient? Est-ce qu'on a vraiment déjà passé du temps à observer la sensation d'être conscient? Elle va, elle vient. Quand elle est là, de dire, ouh, elle est là, je l'observe. Je suis conscient et je sais que je suis conscient. On peut même le dire. Hein. Moi, parfois, je me dis, je suis là. Et j'entends la phrase qui se dit dans ma tête, je suis là. Je suis toujours là. C'est presque schizophrénique. Hein. Je suis toujours là. Et j'entends la phrase qui dit, je suis toujours là. C'est un peu comme Descartes, finalement. Hein. Je confirme mon existence et ma présence là, et je peux le faire toutes les 2 respirations. Je le fais ça parfois. Je l'ai même déjà guidé cette méditation. Et en fait, ce que j'observe, c'est la sensation d'être conscient. Pour devenir connaisseur, parce qu'on parle de conscience et de distraction, mais est-ce qu'on connaît vraiment? Est-ce qu'on a déjà vraiment passé du temps à... Et puis, ce que j'observe, c'est que quand la sensation d'être conscient perdure un petit peu, il y a tout un tas d'aspects de moi-même qui ne sont pas là en fait. Et ça, il faut l'observer. C'est ça, je vous dis, c'est très technique, mais tout ça, il faut le comprendre et il faut essayer de le voir. On arrive à une grande connaissance de soi et une connaissance de l'esprit, une connaissance du cœur, une connaissance des émotions et du lien entre les émotions, la pensée, le corps, et une connaissance de l'humain. Et ça, ça libère. Et ça nous permet de trouver notre chemin. La méditation, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus que juste se poser. Donc par rapport à cette relation à la mort, il y, Il y a cette question que je posais dans le premier discours. Qui est-ce qui meurt? Et c'est cette... Si on s'arrête à une idée conçue de nous-mêmes, à ce moment-là, ça ne peut que amener des peurs. Si on s'arrête à une idée reçue, non questionnée, non explorée, et implicite, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas vraiment posé de questions, mais moi je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça, je ne suis pas ça, je suis cela, ben, c'est tout ça qui meurt, donc du coup c'est très très insécurisant. Et par contre, dans la pratique de la méditation, en explorant l'identité et en jouant avec l'identité, peu à peu on peut se rendre compte que notre sensation d'identité change. Et si notre sensation d'identité change, notre relation à la mort change. Et même ce que veut dire la mort se transforme. Déjà sur un petit court chemin comme le mien, c'est déjà énorme en fait ce que ça veut dire la mort, le changement. Et je vois Thich Nhat Hanh, un jour je lisais il y a longtemps, hein, je ne sais plus très bien comment il formulait, mais il disait qu'au début, quand il entendait que le... Alors c'était quelque chose comme la mort n'existe pas. Il disait, c'était incompréhensible pour moi. Mais en fait, c'est facile. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le changement d'identité qui va faire le changement d'idée de ce qu'est la mort. Merci pour votre écoute. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.